jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Nicolas Benita à la réalisation, pour nous interroger sur ce qui fonde notre humanité. Comment expliquer notre position si singulière dans l'histoire des espèces animales? Et si s'en était fallu d'un cheveu, ou plutôt d'un poil, d'une plume ou d'une écaille, de quelques gènes, en plus ou en moins, pour que tout soit différent? Et si c'était d'abord une affaire de langage, de la possibilité mécanique et intellectuelle de parler et de penser? Sinon, comment expliquer que nous soyons à la fois si proches de nos cousins primates, chimpanzés et bonobos, et en même temps si différents? Qu'est-ce qui fait une telle différence? Immense interrogation, troublante, renouvelée aujourd'hui par l'avancée des connaissances et des mentalités qui rendent les frontières de plus en plus poreuses entre nous et les autres animaux, en particulier les grands singes. Singe, toi-même, c'est le titre volontairement provocateur du dernier essai de notre invité, le professeur Alain Prochian, administrateur du Collège de France, titulaire de la chaire des processus morphogénétiques, autour de la question « Pourquoi être et ne pas être singe ?» Bienvenue. Bonjour Alain Prochian.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur et administrateur du Collège de France, où vous avez créé le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie, titulaire de la chaire des processus morphogénétiques. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages remarquables et remarqués. On peut citer « La biologie dans le boudoir » et « Anatomie de la pensée ». Vous venez de publier chez Odile Jacob un essai au titre volontairement provocateur « Singe ». Toi-même, comment faut-il le prendre, Alain Prochian ?
Ben bien.
Merci.
Je dirais parler debout. Singe toi-même, ça veut dire que on dira, oh, quelqu'un vous traite de singe, vous lui répondez singe toi-même. Du genre, moi je suis pas un singe. Mais maintenant, singe toi-même, oui, moi-même je suis un singe. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que vous avez dit dans l'annonce, c'est être et ne pas être un singe. Voilà, c'est un petit peu ça que ça veut dire.
Nous sommes au fond de la même famille évolutive que nos cousins primates et très peu de gènes, hein, nous séparent des bonobos ou des chimpanzés. Et vous n'hésitez pas à dédier cet essai, là je vous cite Alain Prochian, je dédie ce livre à nos cousins bonobos en leur recommandant particulièrement le chapitre sur les éléments génétiques mobiles. Vous n'avez décidément peur de rien.
Non, c'est juste, je pense que dans cette dédicace, il y a tout le livre, d'une certaine façon. C'est-à-dire que oui, nous sommes très proches des bonobos, donc je peux leur dédier un livre. En même temps, il y a une distance infinie, parce que c'est nous qui écrivons sur les bonobos et pas les bonobos qui écrivent sur nous. Et donc, je ne pense pas qu'ils puissent lire le chapitre en question. Enfin bon, peut-être qu'il y a un bonobo génial
qui arrivera à le lire,
mais
vous avez des doutes, et pourtant, hein, vous le dites d'entrée, il y a peu de gènes. Combien de gènes nous séparent de nos cousins primates?
Je pense que ce n'est pas en nombre de gènes. Je pense qu'on a, on a probablement les mêmes gènes. Il y a quelques mutations hein, dans les gènes. Tout dépend de ce qu'on appelle gènes. Parce que les gènes, il y a les gènes qui codent pour les protéines, ce qu'on appelle les parties codantes. Donc là, c'est 2% du génome. Et sur ces 2%, nos gènes ne sont pas très différents de ceux des autres animaux, même pas uniquement les bonobos. Hein. On peut parler des souris, des canards.
On est très proche des autres animaux, génétiquement.
Génétiquement, non, parce qu'on est très proche sur les parties codantes, justement celles dont je vous parle. Mais 98% du génome, dans lequel il y a les éléments mobiles en question, sont des régions régulatrices. Et là, une mutation, une modification peut avoir des effets catastrophiques. C'est-à-dire que si vous prenez un gène, même le même chez le bonobo et vous, et nous. Et si ce gène va être exprimé, est important pour l'ontogénèse du cerveau, pour le développement du cerveau ou d'une région du cerveau, et qu'il est exprimé simplement 4 fois plus longtemps, parce que vous aurez modifié les séquences régulatrices, ça va avoir des effets, du fait d'une mutation ponctuelle, ça va avoir des effets absolument catastrophique, entre guillemets, bah, dramatique, hein, disons plutôt, sur le développement de l'organe cérébral. C'est pour ça que même si on a 1,23% de différence génétique, ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'il y a aussi les duplications, les délétions, les éléments mobiles qui interviennent dans ces questions-là, mais même si au niveau mutation ponctuelle, il y a 1,23%, eh bien ça se traduit par 400% au niveau de la taille du cerveau. Donc vous voyez, donc, il n'y a pas effet de linéarité. Je le dis souvent, c'est un petit peu comme la bombe de l'ongle de Boris Vian. L'important, c'est de l'endroit où elle tombe. Et quand elle tombe là, ben voilà. C'est pas quantitatif, ces choses-là.
Et c'est pas quantitatif, c'est plutôt qualitatif. Mais c'est vrai aussi que être et ne pas être sain, c'est une question qui se repose aujourd'hui, non seulement avec l'avancée des connaissances, mais aussi parce que nos mentalités changent et qu'on se rend bien compte que les animaux sont capables d'énormément de choses qu'on pensait réservées aux humains et que notre... Alors vous dites tout de suite, vous n'êtes pas antispéciste, hein, c'est pas ça votre propos, mais tout de même, on a un autre regard sur la frontière entre l'humain et les autres. Vous n'êtes pas anti-antispéciste non plus.
Un petit peu quand même. Tout dépend ce qu'on met sous le terme antispéciste. On pourra revenir un peu plus loin parce que je pense qu'il ne faut jamais être trop catégorique dans ce genre de questions. Il y a tout dans les antispécistes. Donc, il y en a qui sont détestables, il y en a dont on comprend qu'ils ont un problème avec les animaux et avec la proximité. Et... Donc c'est cette question de la proximité qui doit être interrogée. Donc le regard qu'on peut... Alors il y a deux choses. Il y a la science. Il y a la théorie de l'évolution, il y a les connaissances, c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans ce livre que vous avez gentiment décidé de présenter, mais il y a aussi la façon dont on... la culture, c'est-à-dire comment on voit les choses d'une certaine période et pas à une autre.
Notre regard a changé.
Il y a aussi l'anthropologie pour un... Je discute souvent avec mon collègue Philippe Descola, c'est sûr que chez les... Les Indiens hachoirs, par exemple, dans les forêts amazoniennes, il y a une force symbolique de l'animal qui est différente. Donc, on peut dire cette panthère est ma sœur, mais c'est dans un autre ordre culturel, dans une autre discipline scientifique que la biologie. Et en biologie, on sait bien qu'on n'est pas des chimpanzés, on sait bien qu'on n'est pas des singes, on sait bien... Enfin, on n'est pas des singes comme les autres, parce qu'on est quand même des singes sur le plan évolutif.
On n'est pas des singes comme les autres, c'est précisément ce qui intrigue une autre généticienne, Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique au Muséum et au Musée de l'Homme, qui a une question pour vous, Alain Prochion.
Moi, j'aime bien ces approches-là, et je trouve que c'est complètement fascinant que si peu de différences génétiques fassent des différences si fortes en termes de mode de vie et d'espèce. Et j'aimerais savoir donc ce qu'il en pense et ce qu'il pense que c'est une somme de petites différences ou est-ce qu'il y a eu effectivement des changements majeurs ?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Evelyne Heyer ?
Moi, je pense que c'est une somme de petites différences. Mais j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un parce que ce n'est pas exclu qu'il y ait quelques petits changements qui ont eu un impact fondamental sur le développement et donc finalement qui se retrouvent à faire des changements majeurs.
Alors, votre réponse à l'impression changement majeur ou somme de petites différences entre
les primates et nous ? C'est une vieille histoire qui a été d'ailleurs posée par Darwin, parce que Darwin disait « la nature ne fait pas de saut ». Natura non passit saltum. Donc, en fait, il y a toute cette tradition en biologie de l'évolution de l'accumulation des petites différences. C'est-à-dire qu'il était un point de vue qui a été défendu par énormément d'évolutionnistes contre ce qu'on appelait les saltationnistes, en particulier Stephen Jay Gould, Richard Goldschmidt, qui pensaient qu'il y a eu des monstres overnight monsters. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, on a pu faire des individus, enfin, une espèce très, très, très nouvelle.
Des sauts, véritablement.
Et en fait, effectivement, il y a des sauts. Il est impossible, si vous voulez, qu'en 7 pauvres millions d'années, ce qui est rien du tout au regard de l'évolution, nous soyons passés de l'ancêtre commun au chimpanzé et à nous.
Il y a bien eu un ancêtre commun.
Bien sûr qu'il y a un ancêtre commun. Sans qu'il y ait eu des mutations avec des effets dramatiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accumulation de petites différences, mais la grande spéciation qui fait qu'on est tombé chez les hominines, dans notre lignage, et bien ça, c'est lié à des mutations dramatiques, oui, avec des effets dramatiques. Oui.
Mais ce qui ne veut pas dire que les singes, un autre embranchement, n'est pas évolué aussi. Je vous pose ça parce que nos auditeurs nous posent ces questions-là. Les singes, eux aussi, ils évoluent. Le cerveau des singes évolue. Eux aussi, ils sont aussi évolués dans le temps que nous, mais différemment.
En plus, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que vous avez l'ancêtre commun aux panines nés, chimpanzés et bonobos, l'ancêtre commun aux hominines, et puis vous partez dans un sens vers nous, dans l'autre sens vers les bonobos, dans les deux sens c'est 7 millions d'années, donc ce qui nous sépare c'est 14 millions d'années, 7 millions dans une branche, 14 millions dans l'autre. Donc, et des deux côtés ça a évolué, c'est pour ça que quand on compare les génomes, il faut toujours prendre un groupe externe qui s'est séparé avant, en général on prend les macaques. Et donc si les mêmes gènes sont chez les chimpanzés et les macaques mais pas chez les humains, ça s'est passé chez les humains, si les mêmes gènes sont chez, si la mutation est chez les humains et les macaques, alors c'est les chimpanzés qui, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut qu'on toujours comparer à un groupe externe. Mais maintenant, c'est possible que ça évolue plus vite d'un côté que de l'autre. C'est possible que les chimpanzés soient plus proches de l'ancêtre commun que nous. Et ça, c'est lié, pas au temps, c'est lié au nombre de mutations pendant cette période.
Au nombre de mutations génétiques.
Mais oui, il a pu y avoir plus de mutations dans les 7 millions d'années du côté des hominines que du côté des chimpanzés.
Et on n'est que dans la génétique ou on est dans le culturel là aussi?
Là, on est dans la génétique.
On est dans la génétique.
Donc, pour l'instant, on est dans la génétique. Ensuite, le culturel, c'est autre chose, on pourra en parler dans un instant, mais le temps biologique, ce n'est pas le temps physique. Le temps biologique, c'est aussi l'accumulation de mutations qui fait qu'il va y avoir des différences plus grandes. Donc, supposons, c'est un cas extrême, qu'il y ait eu zéro mutation du côté des paninés.
C'est-à-dire des singes.
C'est-à-dire qu'ils seraient exactement comme l'ancêtre commun et qu'il n'y aurait que nous qui aurions évolué. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ça évolue du côté des singes. C'est que des chimpanzés.
Et on s'est écarté de plus en plus.
Et donc on s'est écarté de plus en plus. C'est pour ça que ce n'est pas 7 millions d'années, c'est 14 millions d'années.
Alors comment distinguer notre espèce humaine des autres espèces, non seulement de primates, mais des autres espèces humaines de cette grande lignée dominine, hein. Voilà une question qui intéresse évidemment les paléontologues, comme notamment Florent Détroit, qui était récemment notre invité. Lui, il a découvert sur une île des Philippines des restes fossiles d'une nouvelle espèce humaine disparue, l'homme de Luzon, l'Homo luzonensis. Et Florent Détroit a une question pour vous, Alain Brochian.
La question des différences et qu'est-ce que ça indique, c'est-à-dire entre un homo sapiens d'aujourd'hui et un chimpanzé, il y a évidemment beaucoup de différences, même s'il y a peu de différences au niveau génétique. Et c'est évidemment une question qu'on se pose, nous, en préhistoire, nous, paléanthropologues, où les différences morphologiques vont nous inciter à décrire des espèces différentes et où, parfois, même souvent, la génétique va venir apporter une information qui peut paraître différente, même si elle est complémentaire. Et ma question, ce serait, au niveau génétique, est-ce qu'il y aurait des éléments ou des gènes ou des particularités qui permettraient de définir des espèces différentes, des genres différents, ce qu'on a du mal à faire en paléontologie.
Vous avez des pistes, Alain Prochon?
C'est une magnifique question, bien entendu. D'abord, maintenant, il y a l'ADN ancien. C'est-à-dire qu'à partir de restes découverts dans les grottes, par exemple, c'est passé pour les Denisoviens, pour certains... ou pour les Néandertaliens.
D'autres espèces humaines.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'espèces humaines. C'est un embranchement, c'est un foisonnement. Et puis, on est les seuls qui soyons restés. Mais on peut récupérer l'ADN ancien et comparer les génomes. Donc, on peut comparer les génomes de tous ces cousins très proches, des hominines. Donc on peut dire, voilà, génétiquement, il y a 0,1% de différence, on peut regarder l'ADN mitochondrial, on peut regarder beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi, et ça c'est probablement quelque chose de plus récent, on peut regarder des modifications qui vont donner lieu à des modifications épigénétiques. Par exemple, je peux avoir l'apparition de certaines cytosines, qui sont des nucléotides, qui vont pouvoir être des sites de méthylation. C'est-à-dire que je peux prévoir que je vais avoir, dans ce contexte-là, plus de méthylation, qui sont des modifications épigénétiques, c'est-à-dire qui sont le résultat d'une activité enzymatique dans la cellule, et pas...
Donc l'expression des gènes, à partir des gènes, l'expression dans un environnement particulier.
Oui, mais vous allez pouvoir modifier ces gènes de façon épigénétique, de telle sorte qu'ils vont être exprimés moins vite, par exemple. Si vous avez des régions régulatrices, vous avez le gène, et dans la région régulatrice, il peut y avoir des mutations dont on sait qu'elles vont amener des modifications qui elles-mêmes vont modifier l'expression du gène. Et ça, on l'a vu, c'était un truc qui était fait récemment par l'équipe de Svante Paabo de Leipzig, qui a comparé comme ça les génomes des Néandertaliens et le nôtre, et qui suggère très fortement qu'en plus des différences génétiques qu'on a vues chez les Néandertaliens entre nous et les Néandertaliens, il y a aussi probablement des grosses différences épigénétiques. C'est-à-dire que les gènes, même s'ils sont identiques, ne se sont pas exprimés à la même vitesse, au même niveau, etc. Donc, oui.
Et ça peut se voir.
Ah oui, ça peut s'étudier tout à fait, oui. Donc le jour où on aura séquencé le génome du,
de l'homme de Luzon
en question, eh bien, je crois qu'on pourra en tirer des conclusions sur la distance ou la différence physique
qui nous sépare de ces autres espèces humaines. Un de nos auditeurs au Gabon, à Libreville, Gaël, nous demande mais pourquoi les Australopithèques ont évolué vers le genre Homo et pas les autres primates. Ils ont évolué dans un genre différent. Est-ce qu'on sait pourquoi, comment
Non, on ne sait pas, parce que l'évolution est sans fin et sans finalité. C'est-à-dire que l'évolution, c'est toujours un système de hasard. Si je fais une manip relativement simple, c'est-à-dire que je prends Caroline, là, qui est en face de moi, et je lui fais faire 20 ans en arrière, et que je refais encore 20 ans, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas les mêmes connexions cérébrales. Et pour l'évolution, c'est pareil. Si tout d'un coup, on revenait à 7 millions d'années en arrière, et qu'on refaisait 7 millions, eh ben, on ne serait pas là, et l'espèce humaine ne serait... Enfin, Homo sapiens ne serait probablement pas là, sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est un peu troublant, mais c'est comme ça, quoi.
C'est une succession de hasards. On y reviendra aussi sur la question de notre cerveau et comment on a fait un si gros cerveau. Mais vous consacrez un de vos chapitres à la néoténie. C'est-à-dire que nous, espèces humaines, je ne sais pas si les autres espèces humaines c'était pareil, nous naissons prématurés, en gros, avec un petit cerveau et nous nous développons avec les autres et nous transmettons ensuite aux générations suivantes.
Oui, un petit cerveau. On est avec un cerveau de 160 grammes quand même, en gros.
C'est déjà pas mal.
Bah, oui, le cerveau d'un singe, d'un chimpanzé, c'est 400 grammes. Donc lui, il naît avec un cerveau de 260, 270 grammes. Non, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ce qui s'est passé, là, c'est encore quelque chose d'assez inouï, quoi. C'est-à-dire que nous nous sommes redressés, nous sommes devenus bipèdes. À la suite de quelles mutations Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, sur le plan obstétrique, ça passe moins facilement. Vous voyez ce que je veux dire? L'embryon, le nouveau-né...
Pour accoucher, c'est nettement plus difficile.
Nettement plus difficile. Et avec un cerveau qui était 4 fois plus gros que celui d'un singe, pour un poids sec, le même. Hein, c'est-à-dire que nous avons le même poids sec qu'un chimpanzé. Eh bien, s'il avait dû passer avec un poids proportionnel à la taille...
De son cerveau, il ne serait jamais passé.
Donc, alors, donc,
il n'y aurait pas eu de mère, quoi, en gros. La mère ne survivrait pas.
Ça aurait été une catastrophe, on aurait disparu. Donc, en fait, c'est une naissance prématurée sur le plan cérébral. Donc, on est avec un tout petit cerveau, on est même soi-même assez prématuré. Hein. Un môme, c'est quand même... Vous ne le lâcheriez pas dans, dans la nature. Hein. Et d'ailleurs, la survie de Sapiens n'est liée au fait qu'il y a environ 300 000 ans, quand on était 10, 15 000 quelque part en Afrique, eh bien, il y a eu des sociétés qui se sont construites pour prendre soin du nouveau-né, bien entendu, parce que vous imaginez, c'est très appétissant, un petit sapiens pour un lion qui se balade par là. Donc il faut les armes, il faut le feu, il faut les...
Il faut le protéger plusieurs années en plus.
Il faut le protéger plusieurs années, parce que sa maturation, justement, est tardive, ce qu'on appelle la néoténie, d'une certaine façon, un ralentissement du développement. Mais en même temps, c'est un gros avantage, c'est que vous construisez votre cerveau dans un environnement qui est un environnement social, très riche. Et donc, tout cet environnement social, toute cette culture, en fait, eh bien, elle vous construit votre cerveau. Parce que le cerveau, ce n'est pas un truc purement génétique, c'est-à-dire qu'il se construit en fonction des informations qu'on lui donne. Hein, si vous prenez un enfant, que vous le laissez dans la nature sans lui parler, il ne parlera jamais. Hein, les centres du langage ne vont pas se développer de la même façon. Donc, en fait, ça aurait pu être une catastrophe. Et en fait, c'était un atout majeur parce que l'homme est devenu, de ce point de vue, un animal culturel. Un animal culturel. Et qui, à chaque génération, reprend là où la génération précédente a laissé. Donc, c'est une culture qui est cumulative, en plus.
C'est ça,
le grand succès de l'espèce humaine, c'est justement ça. Voilà.
Autour de la question être et ne pas être singe, avant d'aborder l'immense question du langage, je propose de nous arrêter sur le secret du singe, au son de la chorale d'Ablaï Sissoko qui nous envoûte une fois encore avec Soutoureau, le secret du singe.
Autour de la question.
Aladani Soutoura, Fassé Soutoura. Aladani Simayala, Fassé Soutoura. Ni Alay Soutoura, Isaki Soutoura. Aladani
face eso sutura la a la dani simala face eso simala ni ala eso sutura isa que sutura kara. Salo ato sita alinga wilinga tsari salvato sita.
Le secret du singe révélé par le grand maître de la Kora, Ablaï Sissoko, sur RFI. Nous sommes en compagnie du professeur Alain Prochian du Collège de France, qui vient de publier « Singe toi-même » aux éditions Odile Jacob. Autour de la question « Pourquoi sommes-nous si proches et si différents de nos cousins primates ?» Une partie de la réponse est contenue dans la question même du langage, à laquelle vous consacrez, Alain Prochian, plusieurs chapitres et sur laquelle vous interroge le physicien et philosophe Étienne Klein.
Bonjour Alain Prochian, je sais que vous vous intéressez aux singes désormais, alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le fait que le langage ait séparé très nettement les singes et les hommes, avec deux mots complètement différents, empêche qu'on puisse penser toute forme de continuité entre les hommes et les singes? Est-ce qu'on est condamné par le langage à ne pas pouvoir penser ce que le langage ne permet plus de dire?
Question aussi complexe que le langage lui-même. Question soulevée par Étienne Klein, Alain Prochian, que pouvez-vous répondre?
D'abord, tout dépend de ce qu'on appelle penser. Oui, on peut penser d'autres choses que par le langage, parce que la pensée n'est pas une substance déposée dans le cerveau comme la confiture dans un pot. La pensée, c'est le rapport entre l'individu et son milieu. Et donc, d'une certaine façon, toutes les espèces qui ont un rapport entre eux et leur milieu pensent d'une
certaine
façon.
Tous les animaux pensent.
Tous les animaux, tout même les plantes d'une certaine façon. Mais la pensée humaine a quelque chose d'extraordinairement spécifique, c'est justement l'utilisation symbolique, c'est-à-dire la naissance du symbolique, la naissance du langage. Et ça, c'est un pas de géant dans l'évolution, parce que d'abord, elle s'est faite à la suite de mutations qui ont modifié l'appareil vocal. C'est-à-dire que ça, c'est extraordinairement important de comprendre que la parole, ce n'est pas uniquement le cerveau, mais c'est aussi un appareil moteur horriblement compliqué.
C'est le fait que nous soyons redressés très schématiquement,
ouais,
et le larynx
aussi,
ou...
Le larynx est descendu, la cavité buccale est devenue cubique, il y a une musculature qui s'est développée qui est extrêmement fine entre le cerveau et les muscles de la langue, les muscles du palais. Donc c'est quand vous parlez, par exemple, faut se rendre compte de la façon dont vous posez votre langue, d'un certain niveau des dents, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Et c'est nécessaire. Mais bon, on pourrait dire, on s'en fiche, on peut parler avec les mains, et puis il y a le cerveau. Parce qu'effectivement, il y a aussi le cerveau. Et il y a eu des modifications des aires du langage, et des modifications des trajets entre les aires. Bon, c'est quelque chose qui est unique à Sapiens. Voilà, ça, c'est, il faut le reconnaître. Et évidemment, ça a changé énormément notre rapport au monde. Ça a rendu notre rapport au monde un rapport symbolique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut nommer les choses, alors on peut les déplacer. C'est-à-dire que ça, on trouve ça dans Bergson quand il parle du langage. On peut déplacer les choses par la seule force de la pensée. On peut prévoir par la seule force de la pensée, qui est lié évidemment, dans ce cas-là, de cette pensée spécifique, puisque j'ai relativisé le terme de pensée.
Oui,
pensée,
les autres animaux communiquent entre eux, les autres animaux ont une pensée également.
Ils s'adaptent au milieu, bon, évidemment, ils ont une forme de pensée animale.
Mais ils n'ont pas, enfin, ce serait le propre de l'homme, que d'avoir à la fois la disposition physique pour parler, et du coup d'avoir développé...
Pas du coup, ils ont développé, alors comment ça s'est fait? Est-ce que c'est en parallèle, etc. On n'en sait rien, mais ils ont développé l'accès au symbolique, et donc ils sont capables de nommer les choses. Et ça, évidemment, ça change beaucoup, parce que ça ouvre sur tout le côté culturel. C'est-à-dire qu'on peut dire, On s'étonne toujours que les hommes vivent si tard, hein, après les périodes de reproduction, par exemple. Et c'est pas nouveau. C'est nouveau qu'on ne meure plus après l'accouchement. C'est nouveau que la mortalité infantile soit très basse. Mais il y a toujours eu des vieux sapiens. Mais ça, c'est parce que c'est important. C'était d'ailleurs sélectionné comme ça, cette survie au-delà de la période de production. Parce que les vieux sapiens ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à dire
et à transmettre.
C'est-à-dire
qu'avec le langage, pour le moment quand même propre de l'homme, de cette manière-là, c'est aussi la transmission.
On transmet et on transmet les acquis. On transmet les acquis culturels. Et donc ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attendre que les mutations se soient accumulées, et sélectionnées pendant des centaines de milliers d'années pour avoir une sorte de connaissance instinctive. On apprend. Et on transmet de génération en génération. Ça prend 10 ou 20 ans seulement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ce qui fait que nous sommes capables, à chaque génération, de démarrer de là où la génération précédente nous a laissé.
Et nous sommes des nains sur les épaules
voilà,
des géants.
Voilà. Et depuis qu'on a appris l'écriture, donc laisser des artefacts qui sont des artefacts écrits, c'est même plus oral, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une culture qui va de façon exponentielle, c'est tout à fait hallucinant. C'est un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il est très très frappant pour des gens contemporains. En 1900, les avions volaient à 2 mètres et faisaient 100 mètres. Et en 1969, on met 2 types sur la Lune. Vous voyez l'extraordinaire
encore
explosion.
Encore un bond, enfin là, encore une fois,
oui,
encore un bond, un saut.
Quel mazette, quel bond. Mais c'est une force poétique en plus très très grande. Mais ça vous explique un tout petit peu l'importance du langage. Hein, c'est le langage qui fait exister les choses. Hein. Le jour où Sapiens aura disparu, hein, le jour où on dira la nature va s'en sortir, il n'y aura plus que la nature. Sauf que la nature n'existera plus, il n'y aura plus personne pour la nommer.
Hein, plus de personne pour la nommer, pour la regarder, enfin plus de spectateurs.
Le jour où Orphée meurt, il n'y a plus de nature. Donc c'est le symbolique qui fait exister la nature.
Est-ce qu'on peut dire que l'homme s'est mis à parler? Ça serait peut-être, je ne sais pas s'il faut chercher un propre de l'homme, je crois qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de dire ça, mais l'homme parle, ce qui lui a permis la pensée abstraite. Est-ce que vous diriez aussi que l'homme a saisi cette chance-là, ou cette malchance, qui sait, de parler, de penser, de transmettre
Il n'a pas eu le choix. Vous savez, comme dit le philosophe allemand, il est entré dans la clairière et il n'y a pas de marche arrière. On peut s'en réjouir, on peut s'en plaindre, hein, parce que finalement, c'est sympa d'être humain, mais enfin, il y a des côtés qui ne sont pas très drôles non plus. C'est un animal tragique, malgré tout.
Un animal
tragique.
Il y a
un début, un milieu, une fin. Bah, écoutez, toute la tragédie, c'est ça. Et la tragédie humaine, c'est aussi la force de la culture humaine. Donc, c'est peut-être bien pour l'espèce... qui disparaîtra aussi. Hein. Mais pour les individus, c'est quand même quelque chose d'un petit peu, comme disait Woody Allen, tant que l'homme ne sera pas immortel, il ne sera pas complètement décontracté.
Autour de la question être et ne pas être singe, si ce n'est être décontracté, dans la grande famille des animaux, il y en a tout de même qui n'ont pas eu, alors comment dire, beaucoup de chance à saisir dans l'évolution, en tout cas de notre point de vue. En petit clin d'œil à notre question du jour, être et ne pas être singe, je vous propose être ou ne pas être crabe, extrait du film La Révolution des Crabes.
Dans les eaux marronâtres de l'estuaire de la Gironde, entre les rochers repeints au fioul et le sable vaseux qui abrite les meilleures huîtres du monde, personne ne se doute de la tragédie qui nous frappe depuis 120 millions d'années. Nous, les Pachygraptus marmoratus, appelés communément chancre mou, ou plus souvent, crabes dépressifs. Vous savez, nous sommes les crabes carrés, les pas beaux, même pas bouffables, ceux que les gamins s'amusent à attraper afin de leur arracher les pattes. Les crabes qui puent, les crabes qui donnent des maladies, bref, une espèce qui n'a jamais demandé à voir le jour.
Bon, ben... c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. Tu pars par où?
Par là. Et toi?
Ah, moi je vais par là.
Bon, à la revoyure.
Ciao.
Ciao.
Et merde.
Car notre tragique destin est bien pire que tout cela. Si la nature nous a permis de nous déplacer sur le côté, comme nos cousins les étrilles ou les tourteaux, elle ne nous a pas en revanche accordé le droit de pouvoir tourner. Une tare génétique qui nous condamne à marcher toute notre vie, suivant la même ligne droite.
Pauvre crabe dépressif, j'ai vu que ça vous faisait rire tout de même. Est-ce que nous, les humains, on a plus de chance, plus de choix en tout cas? On peut faire demi-tour, on peut changer d'avis
Oui, on a pas mal de choix. Je ne connaissais pas cette histoire de crabe, ça m'amusait.
La révolution des crabes, c'est à voir sur YouTube, c'est pas mal du tout.
Regardé, oui, j'ai regardé. Non, il y a une partie qui est surdéterminée, bien entendu, que vous connaissiez ici ou là. dans tel ou tel milieu social, etc. Bien entendu, il y a quelque chose de surdéterminé dans votre histoire. Mais en même temps, à chaque instant, il y a un nombre infini de choix possibles. Tout à l'heure, je faisais une manip par la pensée avec vous.
Si on me reportait...
de 20 ans.
Oui.
Bah après, vous allez faire...
autre chose.
Autre chose.
Autre chose de ma vie.
Gens, vous allez avoir d'autres amours, d'autres... Donc, oui. Est-ce que ce sont des choix ? Non, mais en fait, il y a une infinité d'histoires possibles entre le moment où on est et le moment où on meurt.
Plus que pour les autres animaux, puisqu'on en est... pas ou plus à définir le propre de l'homme, mais il y a peut-être plus de choix, ou en tout cas nous avons plus de choix que les autres animaux, puisque nous sommes aussi des animaux.
Je pense qu'on a plus de maîtrise sur les choix, bien entendu, c'est-à-dire que c'est un animal qui a une conscience, donc tous les animaux ont des consciences, c'est-à-dire que de nouveau je suis darwinien, je suis donc ce qui existe, j'avais ce livre de Darwin magnifique, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, donc c'est pas pour dire que les autres animaux n'ont pas aussi quelque chose d'embryonnaire, je dirais, par rapport à ce que nous avons. Mais nous l'avons développé à un point qui fait que, oui, nous avons une conscience très très forte et nous pouvons anticiper, nous pouvons prendre des décisions et nous pouvons orienter. C'est pas uniquement le fait du hasard, c'est devenu aussi le fait de la volonté de chaque individu.
Oui.
Voilà.
Nous avons une volonté, c'est ça aussi qui nous différencie des autres animaux, parce qu'en même temps, sinon, les frontières sont de plus en plus floues aujourd'hui. On découvre sans cesse de nouvelles capacités, les animaux sont capables de fabriquer des outils, ils communiquent tous entre eux, enfin il y a de moins en moins de propre de l'homme, mais en même temps, il y a même de l'empathie chez les grands singes. On est quand même dans des registres, dans des frontières de plus en plus floues.
Je crois qu'on découvre, non, je ne pense pas qu'il y ait de frontières floues, parce que la théorie de l'évolution et l'évolution, ça ne change pas avec ce que nous savons aujourd'hui. Mais on connaît de mieux en mieux, si vous voulez, à la fois les humains, des études sur l'homme. Et puis, il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur les autres animaux. Et donc, je ne pense pas que ça brouille du tout les frontières. Je pense qu'il y a toujours des frontières extrêmement fortes entre l'homme et les autres animaux pour le fait, justement, que nous avons un cerveau monstrueux.
Un gros chapitre s'intitule « Comment faire un gros cerveau ?»
On devrait avoir un cerveau d'environ 500 cm3. Donc, on a un cerveau qui est... On a 900 cm3 de trop, si vous voulez. Et ils ne sont pas placés n'importe où. Ils sont placés dans les aires cognitives, dans les aires linguistiques. Donc, c'est une machine, si j'ose dire, assez ahurissante sur le plan de ce que ça nous ouvre comme possibilité. Donc, non, je ne pense pas que les frontières bougent. Mais grâce à ce cerveau, nous sommes capables d'étudier le cerveau des autres singes, et ce n'est pas le contraire.
On est d'accord.
Et donc, on en apprend de plus en plus, et c'est bien, je veux dire. Moi, j'ai une grande amitié pour les animaux. Je trouve ça très bien qu'on les étudie, qu'on sache ce qu'ils peuvent faire. Mais ce ne sont pas des sapiens. Non, la frontière ne bouge pas.
Pour vous, la frontière ne bouge pas, et pourtant, on le dit, nous, sapiens, sommes capables d'étudier les autres animaux et de faire quand même un peu bouger les lignes. Enfin, en tout cas, c'est la question que vous pose Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir.
Dans ce qui nous rapprocherait de certaines espèces de singes, figurent les neurones miroirs. Et récemment, une découverte fait état de neurones miroirs chez les rats. Donc la question est la suivante, est-ce qu'il ne faut pas tout revoir, tout regarder dans le détail et se demander si ces neurones miroirs ne seraient pas partagés par l'ensemble des espèces.
Votre réponse, Alain Prochian ?
D'abord, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du neurone miroir, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais le neurone miroir pour l'auditeur, c'est par exemple, je suis un singe et je regarde Caroline qui va prendre son stylo. D'accord ? Et donc, ça active un certain nombre de neurones dans le cortex moteur et prémoteur de Caroline. Et le singe, dans son cortex prémoteur, a les mêmes neurones qui s'agitent, comme si lui-même était en train de prendre le stylo. Vous voyez, donc,
c'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de penser comme pense l'autre.
Non, mais c'est moteur. Donc, c'est d'anticiper un mouvement moteur qu'il doit faire par quelqu'un d'autre.
Et une découverte qui a été faite justement chez des singes qui avaient envie de manger une pizza quand les chercheurs qui les étudiaient...
Je ne sais plus si c'était une banane
ou pizza.
Faite par Giacomo Rizzolatti, qui est un très grand neurobiologiste de Parme. Mais bon, oui, nous sommes de nouveau. C'est-à-dire qu'on s'étonne toujours du fait que nous soyons dans une histoire évolutive. Donc c'est normal que des propriétés, beaucoup de propriétés intellectuelles et cérébrales qui sont les nôtres, on puisse les retrouver dans les autres espèces.
Nous en l'occurrence, là, c'est l'empathie qu'on peut retrouver dans d'autres espèces.
Ça, c'est autre
espèces.
Chose, l'empathie. L'empathie, c'est d'éprouver un sentiment, par exemple, de souffrir, de voir quelqu'un souffrir. Mmh. Donc c'est différent, ça sont d'autres noyaux, les noyaux de l'amygdale, etc. Donc on ne va pas faire un cours de neurosciences, mais que des animaux puissent éprouver de l'empathie, oui, pourquoi pas, je n'ai rien contre. Le problème, c'est le niveau des choses, c'est-à-dire que chez Sapiens, ça a explosé considérablement. D'ailleurs, ce qui fait aussi de Sapiens un animal parfois cruel, parce qu'il peut aussi éprouver du plaisir à faire éprouver de la souffrance. C'est pas entièrement un animal sympa, Sapiens, mais c'est un animal qui a un cerveau, monstrueux. Oui, je pense que c'est
monstrueux. C'est vraiment une question d'échelle, mais vraiment de cet ordre-là.
Oui, d'échelle et aussi de seuil. C'est-à-dire quand vous avez passé un certain, il y a des seuils dans les donc. La taille du cerveau et surtout la taille des régions les plus importantes sur le plan cognitif est telle que nous avons franchi une barrière qui nous sépare de la nature. C'est-à-dire que nous sommes à la fois dans la nature et hors de la nature. Et d'ailleurs, nous modifions la nature. Hein. La nature, c'est nous qui la fabriquons. Non seulement nous la nommons et elle existe, mais en même temps, nous la fabriquons. Bah, c'est évident. C'est d'ailleurs de ça que se plaignent beaucoup de gens qui pensent que nous faisons du mal à la nature.
Mmh. Nous sommes très créatifs dans tous les sens. Et voilà pourquoi peut-être vous dédiez, j'ai envie de revenir sur cette dédicace, votre livre à nos cousins bonobos, en leur recommandant particulièrement d'ailleurs le chapitre sur les éléments génétiques mobiles. Alors, qu'est-ce qu'ils apprendraient ? Qu'est-ce que ça pourrait inspirer à nos cousins bonobos, ce chapitre ?
Oui, je parlais tout à l'heure des 2% de séquences codantes dans le génome, c'est-à-dire que les centres qui font des protéines, quoi. Mais il y a 98% de séquences qui sont ce qu'on appelle des séquences régulatrices, que les gens appelaient avant l'ADN poubelle, mais c'est pas de l'ADN poubelle, c'est de l'ADN, c'est extraordinairement important sur le plan physiologique. Et chez Sapiens, à peu près la moitié de l'ADN vient de ce qu'on appelait des éléments génétiques mobiles, c'est-à-dire des morceaux d'ADN qui peuvent directement être sortis du génome et se réintégrer ailleurs, ou bien qui peuvent être transformés en ARN, retransformés en ADN et envahir d'autres régions du génome. Donc en fait, ça sont donc mobiles, et la moitié du génome des humains et des mammifères en fait est faite d'éléments mobiles comme ça, ou d'anciens éléments mobiles. Alors il y en a qui sautent toujours. Il y a une centaine d'éléments mobiles qui sont toujours actifs chez Sapiens, qui sautent, qui font des mutations. Il y a des maladies qui sont liées à des mutations créées par l'insertion de ces éléments mobiles.
C'est quoi ? C'est plus de potentialité, ces éléments
mobiles ?
C'est
peut-être catastrophique. C'est-à-dire qu'ils sont importants parce qu'ils créent de la diversité génétique. C'est-à-dire que si vous avez un grave problème d'adaptation au milieu, ça accélère l'évolution. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... ces éléments mobiles sont déréprimés, d'une certaine façon, et peuvent donc aller créer des mutations dans toutes sortes de cellules germinales. Très rapidement. Et il y a peut-être qu'il y en a une qui va trouver la solution pour s'adapter à ce changement de milieu. Donc en fait, c'est une force évolutive très forte, très grande. Mais en même temps, sur le plan individuel, ça peut être la source de maladies, de pathologies, et aussi la source d'éléments régulateurs. C'est-à-dire que cet ADN est transcrit en ARN, et il y a des ARN régulateurs qui vont aller réguler l'expression d'autres gènes. C'est pour ça que ce 1,26% ne veut rien dire. Vous voyez, c'est
et vous le précisez bien, nous sommes beaucoup plus que nos gènes.
Nous sommes beaucoup plus que nos gènes. Alors, chez les bonobos, ce qu'ils apprendraient, c'est que dans la branche, une partie de ces éléments génétiques qui est très mobile, très important, qu'on appelle les séquences ALU, A-L-U, on s'en fiche de savoir ce que ça veut dire, ou les gènes S-I-N-E, SINE, eh bien, il y a eu beaucoup plus d'insertions de ces éléments dans la lignée des hominines que dans la lignée des chimpanzés ou des orang-outans. Et donc, ça nous a énormément écartés d'eux. Voilà, c'est ça qu'ils pourraient apprendre s'ils avaient lu le chapitre sur la question dans le livre.
Pourquoi être et ne pas être singe ? Allez, on écoute le singe savant de Carmen Maria Vega sur RFI.
On m'appelle singe savant, demain je serai président. J'ai de l'argent dans les artères, une rivière de militants. On m'appelle singe savant. Ne fais pas de manières et c'est ça va te plaire. Attends un peu septembre, comme je vais bien me vendre très très cher. J'ai deux couteaux
Le voilà, le singe savant de Carmen Maria Vega sur RFI. Autour de la question être et ne pas être singe, en votre compagnie, Alain Prochian, vous insistez dans cet essai qui s'intitule « Singe toi-même » sur le fait que nos capacités cognitives, nos différences justement, nous donnent aussi certaines responsabilités vis-à-vis des autres animaux. Alors à ce sujet, je vous propose un dernier éclairage, c'est celui de l'océanographe et plongeur François Sarano, grand ami des cachalots, qu'il étudie notamment sur l'île Maurice. Il nous a fait partager leur langage, plutôt leur cliquetis, le cliquetis des cachalots sur notre antenne. On écoute son éclairage sensible.
Est-ce qu'il suffit d'être né dans une enveloppe humaine pour être plus humain que d'autres qui sont nés? Prenons l'exemple du fameux singe, la gorille, la Coco.
Oui, de Patterson.
Mais elle était capable d'associer des mots, de faire ça, de dialoguer. Bon, elle n'était pas humaine, évidemment. Il y a des humains qui ne font pas ce que faisait Coco, dans la même enveloppe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où on met le curseur. S'il y a une chose qui peut faire notre différence, c'est que nous discutons de ça, nous savons ça, par conséquent, nous avons la liberté de respecter tous les autres, tous nos colocataires. Ça, je pense que c'est une différence importante à mettre en avant.
Réagir à l'approchant à cet éclairage de François Sarano qui lui dit que finalement être humain ça peut être dans une autre enveloppe que notre enveloppe à nous de sapiens.
Non, je pense pas.
Là, vous pensez pas.
Ça veut pas dire qu'on reste pas les chimpanzés, mais ça veut dire que bon, on est humain quoi. Ça, c'est un résultat de l'évolution des espèces et puis c'est comme ça, il n'y a pas de marche arrière.
Vous êtes en tout cas d'accord sur cette question de responsabilité, de respect pour les autres espèces.
Je pense que nous avons, vous savez, on était 10 000 il y a 300 000 ans, on est 7 milliards aujourd'hui.
Bientôt 8.
On occupe 70% du globe, on en a mis 2 sur la Lune. Donc effectivement, c'est une espèce qui a eu un succès incroyable sur le plan évolutif. Peut-être que ça va nous conduire à notre perte, ça c'est une autre affaire. C'est pas du tout impossible, mais ça veut dire qu'on a une maîtrise sur la nature qui nous donne une responsabilité sur cette nature, sur ce globe terrestre, hein, peut-être au-delà du globe. Donc mais ça ne retire rien au fait que nous sommes à la fois dans la nature et hors de la nature, parce que nous faisons aussi partie de cette nature, d'une certaine façon.
Nous sommes singes et pas singes. Alors,
et donc je pense qu'on a une responsabilité, c'est-à-dire que si on veut voir pousser nos enfants, petits-enfants et espérer que les petits-enfants de ces mêmes petits-enfants, pendant quelques générations encore, pourront vivre sur cette terre, alors il faut faire en sorte qu'elle soit préservée et qu'elle puisse donner cette possibilité. Et ça, c'est une responsabilité. C'est pas obligatoire, bien entendu. C'est un choix, c'est une responsabilité, et je pense que c'est correct. Mais ça veut dire qu'on a une maîtrise sur la nature, même dans cette anticipation. C'est-à-dire que pour faire en sorte que ça n'aille pas dans le mur, il faut déjà convoquer tous nos neurones et toutes nos capacités scientifiques et techniques pour que ça marche comme ça. Alors, l'autre question, c'est celle du rapport avec les autres animaux ou les autres plantes, hein, pourquoi pas.
Alors, qui aujourd'hui revient vraiment à l'ordre du jour.
Il se trouve que les animaux n'ont pas de droit. Aucun animal hors sapiens qui fait le droit, parce que le droit, ce n'est pas quelque chose de naturel, hein, ni de divin.
C'est une convention humaine.
Qui est écrit par les humains pour vivre en société. Et donc, nous pouvons nous imposer des devoirs vis-à-vis des autres animaux. Et ça, je pense que c'est une chose, c'est un progrès, d'une certaine façon, que dans certaines sociétés avancées, les humains ont décidé, dans certaines circonstances, pas pour tout, hein, très clairement, je pense que pour la recherche médicale, il faut faire un petit peu attention, de s'imposer des devoirs vis-à-vis des autres animaux. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas parce que nous sommes proches des autres animaux, mais c'est parce que nous sommes très distants d'eux. Hein. Eux ne le feraient pas. Retirez tous vos artefacts, votre robe, sans rien. Allez dans une des rares forêts vierges qui nous reste, vous verrez si les animaux respectent les droits de l'homme. Ça ne durera pas très longtemps.
Non, je ne pense pas. Non.
C'est quelque chose qui est vraiment lié à notre capacité cognitive que de nous imposer cette culture. Hein, c'est un acte de culture.
Vous dites qu'il n'y a pas de droit dans la nature, mais plutôt des devoirs que pourrait nous imposer notre nature humaine. Hein.
Oui, notre nature humaine fait que nous avons décidé de nous imposer, pas partout, hein, ça, c'est parce que le droit, ce n'est pas naturel ni divin. Donc, il y a des sociétés qui ont certains appareils de droit, d'autres qui en ont d'autres, etc. C'est Montesquieu, il faut quand même lire.
Mais donc, ce qui nous fait humain, c'est à la fois notre animalité, savoir que nous sommes des animaux, mais c'est savoir que nous sommes
une espèce à part et très à part.
Oui, et puis utiliser notre cerveau pour construire notre environnement, dans lequel nous pouvons laisser des places à d'autres animaux et décider que nous n'allons pas les faire souffrir, sauf quand c'est absolument indispensable. La biodiversité, c'est formidable. Ce n'est pas une raison pour transformer la Terre en zoo. La biodiversité, c'est formidable. C'est surtout formidable quand elle permet d'espérer que la Terre va durer suffisamment longtemps pour que Sapiens survive suffisamment longtemps. Ça, c'est très égoïste comme calcul, en fait. Au fond, si on laissait faire la nature complètement, Sapiens continuerait, et puis il disparaîtrait. Et puis, la nature continuerait sans nous, peut-être mieux. Hein.
Donc, être et ne pas être singe, c'est être égoïste et altruiste.
C'est être altruiste par égoïsme.
Altruiste par égoïsme. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment, Alain Prochian, d'être venu en direct partager toutes ces réflexions, toutes ces interrogations aussi. Être un altruiste égoïste, non, c'est comme ça que vous l'avez dit ?
Non, être altruiste, penser au reste de la nature, par égoïsme, parce que c'est ça qui nous permettra de suivre le plus longtemps possible.
Être altruiste par égoïsme, ça me va bien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Alain Prochian, Singe toi-même, et ce n'est pas une injure, hein, singe toi-même.
Non,
merci.
C'est pas une injure, c'est un compliment.
Merci. Parfait. Donc merci à vous, vous revenez quand vous voulez pour nous parler de Singe toi-même ou bien aussi du programme Pause, hein, du programme de soutien aux scientifiques et aux chercheurs forcés à l'exil que vous soutenez au Collège de France. Merci à la prochaine.
Merci à vous.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain autour d'une autre grande, grande question. Jusqu'où va la vie ? Qui nous entraînera jusqu'aux limites du vivant du côté des infravies, carrément. Avec Nicolas Benita à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux. Chers amis auditeurs, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal. C'est dans une minute. Radio Foot.